Eh bien, on était des centaines en seconde et on était 10 en terminale C. Si l'histoire, c'est juste apprendre des dates du passé, bah, ça ne sert à rien pour la vie. J'avais surmonté un certain nombre d'obstacles qui étaient ceux que je vois aujourd'hui chez certains de mes étudiants de prépa. C'est le manque de confiance en soi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Prépa, épisode pendant lequel je vais recevoir Frédéric Munier, que vous connaissez sans doute très bien si vous passez un petit peu de temps sur cette chaîne YouTube. Avec Frédéric, on a parlé en quelque sorte deux fois de la prépa, d'abord de sa prépa littéraire lorsqu'il était étudiant dans les années 90, et puis évidemment dans un second temps de la prépa qu'il a connue cette fois-ci en tant qu'enseignant. Et ensemble, nous avons également parlé de son parcours un petit peu plus dans son ensemble, mais aussi de sa perception de l'éducation en France, de la classe préparatoire, et puis de cette voie de réussite à laquelle il est extrêmement attaché. Donc voilà, j'en dis pas davantage, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Frédéric Munier. Salut Frédéric.
Salut Dimitri.
Bah écoute, je suis super content de te recevoir sur ce podcast, déjà parce que c'est le premier de 2024, donc tu inaugures cette année, c'est pas rien. Aussi parce que tu pourras nous parler de la prépa à deux titres, en tant que prof déjà forcément, ça c'est le plus récent, et puis aussi en tant qu'élève, puisque en étant immémoriaux a priori...
C'est plus ancien.
C'est ça, mais néanmoins tu as été...
c'est au siècle dernier.
Tu as été étudiant en classe préparatoire, et ce sera intéressant, parce que voilà, il y a déjà eu des trentenaires qui sont passés sur ce micro, mais pas des... Enfin, je le dis pas, mais des un peu
pas plus
âgés. Voilà, des un peu plus âgés, exactement. Et puis aussi parce que avec toutes les interventions que tu peux faire sur Major Prépa, sur les lives, pour les débriefs des concours bien sûr, ou même sur les vidéos, forcément tu commences à avoir tes petites renommées, et je pense que beaucoup d'étudiants seront contents de te découvrir un petit peu sous un autre aspect. Je te laisse te présenter dans les médias.
Oui, écoute, je m'appelle Frédéric Munier, j'enseigne la Géopo, je suis prof au lycée Saint-Louis à Paris, je suis aussi prof de Géopo à Skema Business School, où je dirige maintenant depuis 2023 donc l'école de géopolitique, une structure destinée en fait à donner, à équiper les étudiants de grandes écoles qui ont fait de la Géopo en approfondissement, et puis pour les autres en fait, la majorité, eh bien, avoir quelques notions sur le monde qui nous entoure. La Géopo, c'est un petit peu... la discipline des mauvaises nouvelles.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi une discipline qui aide à réfléchir, à penser l'action. Et c'est surtout pour ça qu'on en a besoin, je crois, en école de management. La géopolitique, c'est faire de la stratégie, hiérarchiser, penser, envisager. Voilà, donc c'est une discipline un peu large qu'on enseigne aujourd'hui. Mais comme tu l'as souligné, je crois que c'est un peu le but aussi de cette émission. J'ai aussi fait une prépa et ça m'a beaucoup aidé aussi pour me dire quel prof j'avais envie d'être, mais surtout quel prof j'avais pas envie d'être non plus, ce que j'avais envie de produire, de reproduire vis-à-vis de mes étudiants en fait.
Oui, on reviendra sur la géopolitique, qui est évidemment une grosse partie de ta vie, de ta vie professionnelle et même de ta vie tout court, et puis sur la prépa aussi, déjà parce que c'est le sujet du podcast, mais aussi parce que également elle a pris une place prépondérante dans ta vie. Si on remonte un tout petit peu en amont, est-ce que tu peux nous dire un peu quel élève tu étais, où tu as grandi, dans quel contexte, est-ce que le côté scolaire dans lequel tu baignes aujourd'hui, c'était quelque chose qui était déjà un peu ancré en toi dès le départ ou pas du tout?
Oui, alors c'est oui et non en fait. Je viens d'une famille plutôt d'enseignants, c'est vrai, ma mère était institutrice, on disait comme ça à l'époque. Mon père était musicien en orchestre symphonique et prof de musique aussi. Mais je n'ai pas fait l'école alsacienne. Et à vrai dire, je n'ai pas passé ma vie dans un ou deux arrondissements parisiens. Moi, je viens de Lorraine. Je suis né durant la crise industrielle, en fait, dans la Lorraine. Donc, des mines de fer, de la sidérurgie qui était en crise, etc. Et ma mère était institutrice à l'école du quartier de la mine, en fait. Et donc, c'est là où je l'ai accompagnée, alors que mon école aurait pu être autre, moins populaire. Elle a choisi de m'amener, c'était plus pratique finalement à son école, et donc c'est quelque chose dont je me félicite, en tout cas j'en suis heureux plutôt que m'en féliciter. Moi, mes copains étaient fils d'ouvriers, fils de mineurs. Pour te donner un exemple, on a été trois de ma classe d'école primaire finalement à aller au-delà du bac. Trois sur une vingtaine, tu vois.
À une époque où il n'y avait pas non plus tout le monde qui avait le bac.
Oui,
mais
enfin,
quand même,
on commençait à entrer dans une dynamique de forte massification. Donc, l'idée, par exemple, de faire une classe préparatoire, je ne l'ai pas eue. J'ai eu par hasard un professeur de terminale qui avait fait une hypocagne et qui était, je crois, le seul de mes enseignants à avoir connu le système des classes préparatoires. Et absolument par hasard, en discutant avec lui, j'ai trouvé ça intéressant et il m'a aidé à monter mon dossier. Ouais. Donc, quelque sorte, une sorte de survivant là-dedans. Donc, ça a été important dans ma construction, je crois, parce que Je sais d'où je viens, en fait. Hein, et je sais combien je suis redevable à la structure. Pour moi, la classe prépa et mes études n'ont pas été une validation de mon niveau social. Ça a été vraiment une forme d'élévation, en fait, hein, intellectuelle aussi.
Et tu penses que ça t'a armé quelque part ? Enfin, je veux dire, les gens que tu côtoies aujourd'hui, bon, à Saint-Louis, voilà, il y a peut-être un public... bon, forcément, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même une grosse partie, on ne va pas se mentir, des étudiants qui viennent d'un milieu plutôt favorisé.
Ou CSP+, plus, oui.
Voilà, où il n'y a pas d'asymétrie d'information, où ils sont déjà informés de ce qu'est la classe préparatoire relativement tôt, ce qui n'était pas ton cas. Est-ce que malgré tout, tu vois des forces ou des atouts dans le parcours que tu as pu avoir ?
Oui, bien sûr. Alors, on est ce que la vie a fait de soi, et donc je ne peux pas me renier, par exemple. Je ne fais pas partie, je pense immédiatement, on parle de choses assez importantes là, autour du micro, je ne fais pas partie de ces ministres bien nés, passés par les classes préparatoires des lycées de la montagne, et puis une fois ministre de l'Éducation nationale, qui va mettre fin en prépa, c'est-à-dire ils veulent mettre fin à ce qui les a rendus possibles. Non, moi je suis extrêmement redevable à cela, sans ça, je ne sais pas ce que je ferais d'ailleurs, bon, je ferais sûrement d'autres choses, mais en tout cas, la personne que je suis aujourd'hui, je la dois en très très grande partie à ce que j'ai fait entre 18 et 21 ans, c'est-à-dire j'ai été au contact de profs dont certains étaient exceptionnels, d'autres moins, mais des profs globalement dévolus, voulant nous faire réussir, communiquant leur passion pour les savoirs qu'étaient les leurs, nous poussant également à davantage travailler, à assimiler, à réfléchir, absolument pas à nous formater, mais au contraire, à nous donner à penser, hein, puisque je l'ai précisé rapidement, mais j'ai fait des classes préparatoires à langue littéraire à Hippocane-Cagne, moderne à l'époque, ça serait Lyon aujourd'hui, hein, à l'époque, c'était pas encore à Lyon, c'était à Paris, à Fontenay-Saint-Cloud, mais voilà, donc je crois que savoir d'où on vient, pas en avoir, ni en tirer une gloire particulière, ni de honte, hein, c'est important dans sa construction. Je sais que je suis ce qu'on appelle en sociaux un transclasse.
Un transfuge de classe.
Hein, je suis né quelque part dans un milieu, je suis ailleurs aujourd'hui. Mais je pense que c'est une force, d'abord parce que, par exemple, le peuple, on sait ce que c'est. Ce n'est pas une entité abstraite dont on parle, qu'on représente. C'est quelque chose que je trouve un peu dommageable aujourd'hui dans une partie de nos élites, enfin, qui gouvernent un peuple qu'ils ne connaissent pas, qui sont passés par des écoles qui ne sont pas l'école du peuple, etc. Et je crois qu'il est quand même difficile aujourd'hui d'appréhender des situations complexes si on a une vision, et c'est pas de sa faute, c'est le choix des parents, mais des parents qui nous ont surprotégés.
Un peu étriqués, oui, c'est ça, dans un milieu.
Alors étriqués, peut-être, oui, en tout cas très limités. Je crois que quand on... C'est une chance aussi, évidemment, de naître dans des quartiers... disons protégés, d'aller dans des écoles qui sont également surprotégées, mais la question c'est quel adulte ça fait, hein, et est-ce que ça fait un adulte par exemple parfaitement prêt à rencontrer un certain nombre de difficultés ou à affronter la résistance du réel quand on n'en a pas toujours connu. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose, en tout cas, et je continue de me poser aujourd'hui. Ouais. Maintenant, encore une fois, on n'est pas responsable de ses parents, on n'est pas responsable du choix de ses parents, on n'est pas responsable du lieu où l'on est né, on n'est pas responsable de l'école qu'on a fréquentée, on est un enfant. Hein. La question, c'est une fois adulte, qu'est-ce que l'on fait de tout ça ? En tout cas, moi, en tout cas, je sais que ça m'a... Je pense que c'est une force, encore une fois, d'avoir côtoyé des milieux sociaux allant des milieux les plus populaires... jusqu'à aujourd'hui, d'autres milieux, je ne fréquente pas que ça d'ailleurs. Hein. Voilà, mon ami d'enfance, mon témoin de mariage, j'ai rencontré à l'école maternelle, c'est mon meilleur ami, on avait 3 ans. Donc ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on se voit très régulièrement, et je crois que ce sont des amitiés, enfin très profitables, bien sûr.
Bah justement, pour faire un peu la jonction avec tout ça, tu disais... que ça coulait pas de source, que tu ailles en prépa. Est-ce que tu étais quand même très fort dans ton lycée, enfin, qui n'était pas une machine à rentrer en
Absolument.
Prépa
Absolument.
Et ensuite, est-ce que tu avais quand même une certaine appréhension? Puisque du coup, c'était, tu le disais, hein, c'était pas écrit,
non. Alors oui, alors bon, j'étais dans un établissement qui aujourd'hui très bons résultats d'ailleurs au niveau académique. Je ne sais pas quels étaient ces résultats quand j'y étais. En tout cas, c'était un lycée de secteur dans le PIO en Lorraine, donc pas loin de Briey, là où Platini a tapé ses premiers ballons.
Oui, Platini, il faut maîtriser.
C'était bon, un joueur de football de mon temps. Bon, évidemment, personne quasiment n'allait en classe préparatoire. Mais alors, c'était quelque chose d'un peu particulier. On était beaucoup en seconde. Je crois qu'il y avait 8 ou 9 secondes. Il n'y avait que 3 premières scientifiques. Qui, à l'époque, tu sais ou tu ne sais pas, mais avant les premières S, alors aujourd'hui, il y a une réforme. Avant, il y avait des premières scientifiques, des terminales scientifiques, etc. avec des options. À l'époque, il y avait une première scientifique, et puis il y avait la terminale D, maths bio, en gros, et puis la terminale C, maths physique, qui était un petit peu la classe. Eh bien, on était des centaines en seconde, et on était 10 en terminale C.
Donc, c'est ce que tu as fait, 10,
oui. Ouais. Une terminale scientifique. C'était la terminale à l'époque des bons élèves, donc ça répond un peu à ta question. J'étais pas matheux, mais quand on était un bon élève, à l'époque...
Il y avait une vraie hiérarchie entre les filières.
C'est ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai souffert parce que j'étais pas un matheux, j'étais pas complètement littéraire non plus. Les sciences, je m'en suis rendu compte après coup, c'est plutôt les sciences sociales qui m'intéressent. De ce point de vue-là, la géopo, je la trouve plus pratique, plus effective que l'histoire et la géographie d'ailleurs. Donc c'est sur le tard que je me suis senti très à l'aise dans ce que j'enseignais en fait. Mais effectivement, il y avait un écrémage absolument incroyable, si bien que quand on était bon élève, il fallait faire la terminale C, la terminale scientifique. Et effectivement, de celle-ci, je crois qu'on était 10 donc, enfin je crois pas, je suis sûr, mais sur les 10, je crois qu'on est 4 ou 5 à être allés en prépa. Mais on était les seuls. Il n'y a que de cette classe que sortaient des gens allés en classe prépa. Comme je ne connaissais que les prépas scientifiques, je connaissais Mathsup, Mathspé, je ne savais pas qu'il y avait d'autres prépas. Et c'est en rencontrant un professeur d'histoire de terminale, absolument par hasard, comme je te le disais, qu'il m'a dit, mais il existe un peu l'équivalent dans les matières littéraires. Ça m'a semblé incroyable. J'ai fait des demandes. J'ai été pris donc à la prépa de Nancy, hein, puisque c'était là. Il y avait deux grandes villes. Hein, il y a deux grandes villes en Lorraine, Metz et Nancy. Et voilà, Nancy était en Meurthe-et-Moselle. Voilà, j'y avais des attaches familiales aussi. Une partie de ma famille provenait de là. Et voilà, je me suis retrouvé donc en Hippocagne. En septembre 90.
Ça y est, le chiffre est lâché, quoi.
90. Ouais. Voilà. Alors, dans une classe, effectivement, c'était pas donné. Je n'imaginais pas ce que c'était. En plus, il y avait deux hippocagnes, une classique, une moderne. J'avais reçu la liste de lecture des classiques et j'étais en moderne. Donc, le jour de la rentrée, les profs nous demandaient si on avait bien lu les ouvrages qui ne me disaient rien. Effectivement, l'administration s'était trompée dans la liste des ouvrages à lire pendant les vacances. Ouais. Je me suis un peu senti en décalage. Et puis, je me suis rendu compte que mes copains qui venaient d'établissements, de centre-ville, de grande ville, savaient immensément plus de choses que moi.
T'en avais conscience de ça? Est-ce que tu...
La première semaine.
Tu allais un peu la fleur... Non, mais je veux dire, avant ça, tu allais vraiment la fleur au fusil?
Oui, absolument pas. Comment veux-tu avoir conscience de ça? Moi, j'ai été à l'école primaire où j'ai eu des instituteurs. Bon, tu as compris que je suis né dans les années 70, qui avait fait 68. Et donc, dans les réformes de programme de l'époque, on pouvait laisser tomber, par exemple, à l'école primaire, l'histoire-géographie complètement et faire de l'éveil. Parce que l'histoire-géo était considérée un peu comme une matière bourgeoise, et donc il fallait faire des choses plus proches des intérêts des gens.
Donc tu as fait de l'éveil.
Donc on a élevé, on a été à la mare chercher des crapauds.
Vous n'avez pas appris marine dans le
1500, etc. Et donc je suis arrivé en 6e, mon premier cours d'histoire-géo c'était en 6e, donc je sentais déjà un décalage. Et puis alors en arrivant en Hippocagne de mon petit lycée, j'ai encore senti un autre décalage. Il était à la fois en termes de connaissances, il était culturel. Il était aussi, parce que je venais pas de ces milieux-là, il était aussi un décalage, oui, culturel au sens le plus large, dans la manière de se vêtir, dans la manière d'appréhender, de parler des autres, de parler aux autres, évidemment. Donc il y a eu un certain nombre d'apprentissages. Alors moi, je suis pas bourdieusien, mais Bourdieu, il verrait parfois des formes de violence symbolique, hein, parce qu'on se sent un peu diminué, on a l'impression de pas faire partie de certains de ces mondes.
T'as l'impression que t'es moins intelligent ou juste que t'es moins érudit à ce moment-là?
Je ne sais pas si j'avais complètement les cases dans ma tête, ouais. pour distinguer tout ça. Alors oui, en tout cas, l'impression de beaucoup moins savoir, l'impression aussi d'une peut-être une moins grande agilité culturelle et sociale, un sentiment peut-être de décalage, hein, ça c'est évident. Ouais. Alors, fort heureusement, qui a disparu en un bon semestre de travail acharné, on se rend compte qu'on peut compenser, bien sûr. Mais en attendant, évidemment, tout était nouveau pour moi. J'avais une petite chambre à Nancy. Et puis, bon, le lycée Poincaré à Nancy est un très, très bel établissement. Donc, j'entrais pour la première fois de ma vie dans un établissement qui avait plus de 50 ans, l'établissement d'où je venais.
Oui, à Poincaré, ouais, c'est très beau.
Hein, mon lycée en Meurthe-et-Moselle était un lycée qui avait été construit après 68. Il y avait une vaste phase de construction. C'était un lycée très moderne à l'époque. J'entrais dans des bâtiments vénérables que j'ai connus plus tard ensuite en tant que prof à Henri IV, à Janson de Sailly ou aujourd'hui à Saint-Louis. Mais c'était une totale découverte. J'avais l'impression d'être téléporté dans un autre monde.
Bon, et alors, de ce que tu t'en souviens, c'est comment la CAIN des années 80-90, est-ce que ça a beaucoup changé?
90,
c'est
à peu près.
90, je suis généreux, 90, par rapport à ce que tu as connu par la suite.
Tu veux dire par rapport à...
je sais pas, l'état d'esprit, la manière d'enseigner...
Par rapport à ce que j'avais connu avant ou parce que par rapport à aujourd'hui ?
Par rapport à aujourd'hui.
Écoute, souvent, quand je présente les classes prépa pour rassurer les élèves, je leur dis, vous savez, les classes prépa d'aujourd'hui, c'est pas la cagne de Raymond Aron, 1930, où le prof de philo arrêtait de corriger la copie à la deuxième faute d'orthographe. Il tolérait une faute.
Sur 16 pages.
Il tolérait une faute en disant, ça a pu arriver à tout le monde, mais la deuxième, c'est intolérable, j'arrête de corriger. Si on faisait ça, les ministères seraient vides aujourd'hui.
Plus grand monde.
Il n'y aurait pas grand monde.
À part ChatGPT, peut-être.
Voilà, peut-être, exactement. À part ChatGPT, je crois que personne passerait la barre. Pardon. Et donc, si tu veux, alors, on n'était pas dans la CAGN 1930, on était dans la CAGN 90. Les professeurs faisaient avec... je pense que la France est arrivée en niveau optimum de savoir à peu près à cette période-là. Depuis la fin des années 90, on le sait, hein, PISA le montre, il y a un retournement de tendance. Donc, même si j'avais été dans un lycée très modeste, qui n'ambitionnait pas de faire de nous... de nous envoyer à Bac plus 5, c'était pas du tout l'idée de l'établissement dans lequel j'étais. Et je veux pas dire que les professeurs n'avaient pas d'ambition, mais simplement, c'était pas notre univers mental. Il faut imaginer que 10 ans avant, 20 ans avant, quand l'industrie fonctionnait très très bien, ma foi, tout le monde avait un travail. Enfin, il faut imaginer je viens d'un monde où, quand j'étais enfant, j'entendais encore des gens disant que, ils faisaient référence aux années 1960, la Lorraine était le Texas français. Zéro chômage, très grosse croissance. Donc, dans ce type de système, si tu veux, avoir le brevet...
C'est très bien,
c'était très bien, et puis ensuite on allait travailler, il n'y a pas de problème, et les mineurs de fer gagnaient correctement leur vie et n'avaient pas les risques, par exemple, des mineurs de charbon du nord de la France, les coups de grisou, les accidents. Il pouvait y avoir des détachements de blocs dans les mines, mais c'était moins dangereux. Je n'ai pas dit que ça ne l'était pas, mais c'était moins dangereux. Donc ces gens avaient un statut, la SNCF embauchait, ma gare, Jarny-Meurthe-et-Moselle, était la 10e en tonnage de France.
Ouais, c'est
70,
c'est des pays qui ont été décimés par la suite.
Qui ont été décimés. Voilà. Donc nos écoles, et encore une fois, c'était pas le coup des profs, mais ne nous projetez pas dans l'idée d'aller faire des études supérieures à bac plus 3, bac plus 5. C'était pas l'univers. Alors, malgré tout, elles nous dotaient. J'ai eu des professeurs très sérieux. Enfin, quand je raconte ça à mes étudiants, ils hallucinent. Mais imagine, par exemple, que j'ai fait ma première dissertation en 5e. Le professeur nous a laissé 3 semaines pour répondre au sujet suivant. Tu imagines, je m'en souviens encore. Une citation de Buffon. Commenter cette citation de Buffon, de point ouvrir les guillemets, « Le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Qu'en pensez-vous » On a eu 3 semaines à la maison pour préparer ça. En 5e. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'était un professeur de français, il était communiste, et on oublie ça parfois, mais les communistes avaient une très très haute idée de ce qu'était l'éducation populaire. Et donc, ils étaient en fait extrêmement exigeants. Je venais d'une région qui votait...
Parce que tu viens de la mine que tu
ne peux pas avoir lu un peu, exactement. Ouais. Alors, je viens d'une région qui était historiquement communiste, évidemment, c'était les régions ouvrières. J'avais des profs plutôt communistes ou proches, etc. Mais j'ai eu des professeurs, un grand nombre de professeurs en collège-lycée extrêmement exigeants. Tout ça pour te dire quoi ? Qu'en arrivant en Hippocagne, même s'ils étaient exigeants, l'univers mental n'était pas de nous préparer aux études supérieures, j'ai senti un décalage. En même temps, la quantité de travail, la capacité de travail, on l'avait au lycée. Je suggère aux jeunes qui nous écoutent de regarder les annales de maths de Terminal C de les années 80 et début 90.
Ouais, ça ressemble furieusement à des trucs de prépa.
C'est de la MPSI, quoi. Donc, on était poussés. Il me manquait des connaissances, c'était net. Il me manquait des savoirs, on dirait au fond des savoirs et des savoir-être, et peut-être des savoir-faire aussi. C'est vrai. Mais on nous avait fait travailler. Et donc, en quelques mois de travail, j'ai pu compenser un certain nombre de choses. Il y a des choses que je n'ai jamais pu compenser. Par exemple, les langues vivantes. Moi, je n'avais jamais fait de séjour à l'étranger. J'avais fait 2 petits échanges, mais jamais de séjour long. Je n'ai jamais pris un cours particulier de ma vie. Jamais. Ça ne passait pas dans l'univers mental. Mes parents estimaient qu'ils croyaient en l'école publique. L'école publique devait nous équiper. Donc, il n'y avait pas de raison d'aller voir ailleurs, dans le privé ou dans des cours partes, bien sûr. Et en langue, là, j'avais d'importantes lacunes que je n'ai jamais compensées, d'ailleurs, de toute la prépa. En hippocagne-cagne, j'ai cubé après, mais jusqu'en cagne, j'étais dernier en allemand, par exemple.
C'est parce que tu as des profs d'allemand par la suite, on est d'accord ?
Alors, j'ai progressé entre-temps. Mais effectivement, en Cagne, dans ma cube, là, au bout de 3 ans, j'ai pu compenser. Et j'ai raté l'ENS à un point, et notamment à cause des langues. Et c'est ce qui m'a décidé justement, après, quand j'ai rejoint l'université en licence, de me dire, bon, bien, je vais essayer d'aller faire ma maîtrise, mon master 1, en Allemagne. Donc j'ai obtenu une bourse de... Alors j'ai beaucoup bossé hein, pour améliorer mon niveau, mais il n'était pas encore excellent. Et puis j'ai vécu 18 mois, en fait, en Allemagne, bon, dans la Ruhr, à Göttingen. Hein, j'étais pensionnaire de l'institut, enfin d'un institut historique allemand.
La ville de Barbara, enfin de Barbara. Voilà.
Oui, Barbara, Göttingen. Figure-toi que j'ai vécu, c'était une vieille dame qui avait une grande maison, elle était veuve, elle louait des chambres dans sa maison. J'étais avec 3 étudiants allemands, on était 4. Et elle avait entendu Barbara à Göttingen chanter sa chanson Göttingen. Elle était amoureuse à l'époque d'un Allemand, Barbara. Et elle avait composé cette chanson voilà, pour essayer de suturer les plaies de la Seconde Guerre mondiale.
Tapez ça sur YouTube, les jeunes.
Voilà, Göttingen, Barbara. C'est très, très beau. Voilà, c'est une belle chanson d'amour. Voilà, donc si tu veux, le projet de faire de l'allemand, il a été de compenser ce qui a été une de mes faiblesses entre 18 et 20 ans, qui était une médiocre maîtrise des langues étrangères. Il faut dire que les versions en Cagne sont difficiles, hein, c'est très littéraire. Et donc, j'ai vécu un an et demi là-bas. Ensuite, j'ai fait un séjour pour me former en tant que professeur agrégé d'histoire, enseignant en allemand, ce qui m'a permis ensuite d'enseigner en section européenne.
À partir de quel moment tu étais certain que tu voulais devenir professeur plus tard ?
C'est quelque chose que j'ai senti très jeune, peut-être dès la fin du lycée, je voulais transmettre.
D'accord, donc dès la Cagne, en fait, tu avais déjà cette fibre.
Oui, de transmission. Alors, sous une forme ou une autre, hein, cette professeur, oui, bien sûr, mais... Je crois, et ça je dis à tous les jeunes qui sont là, qu'ils ne seront pas profs, la plupart des jeunes qui passent par nos prépas ECG, mais en tout cas l'idée de transmettre ce qu'on a appris, que ce soit des expériences vécues sur la vie, que ce soit des expériences de travail, c'est fondamental, parce que hein, tu connais cette phrase de Bernard de Chartres, un intellectuel, on aurait dit, du XIIe siècle, qui disait « nous sommes des nains sur des épaules de géants ». On est des nains, on est tout petits, on a une vie qui est courte, mais on peut capitaliser, évidemment, les géants, c'est les expériences du passé. Et si on veut essayer de voir, parce qu'en étant sur leurs épaules, on voit plus loin qu'eux, si on veut voir, et si les jeunes générations veulent voir plus loin que les anciennes, elles doivent s'adosser au passé. Et donc il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait des gens qui transmettent. Et encore une fois, ces gens peuvent être des profs, c'est notre job 100%, mais ça peut être aussi des cadres, des entrepreneurs comme toi, qui vont témoigner de ce qu'ils ont fait. C'est très, très important de transmettre. C'est comme ça qu'on construit, qu'on édifie, hein, littéralement, une génération, comme on construirait un bâtiment, en fait.
Mmh. Hein, d'accord. Donc
c'est cathédrales de savoir.
Ok, c'est quelque chose qui t'a toujours animé,
oui,
en fait.
Ça, oui. Ouais. Transmettre, faire cours... éveiller des esprits, être challengé éventuellement, parce que quand on enseigne en prépa, on a un public à la fois qui est plus âgé qu'au collège-lycée, et je pense que les collégiens et les lycéens ont des questions à poser, bien sûr, mais ce sont des questions de jeunes adultes, bien sûr, donc, qui touchent à des sujets forts, qui peuvent être des sujets, disons, alors de court, si l'on veut, mais la géopo, c'est très relié à la vie, quand même. Hein. Mmh, et moi, je crois beaucoup, j'ai lu ça tardivement, mais c'est à 24 ans, que, justement en Allemagne, que j'ai lu Nietzsche. C'était un peu trop tardif dans ma construction, mais c'est comme ça. Et notamment la seconde intempestive de Nietzsche, hein, dont le titre, je faisais des études d'histoire, hein, s'intitule « De l'inconvénient et de l'utilité des études historiques pour la vie ». Donc le titre semble suggérer que les études historiques pourraient être un inconvénient pour la vie. Et c'est ce que dit Nietzsche. Nietzsche dit, et ça m'a ouvert les yeux, si l'histoire c'est juste apprendre les dates du passé, ben, ça ne sert à rien pour la vie. L'histoire vise à comprendre le présent et agir.
Hein, éventuellement anticiper le futur.
Et en tout cas, être dans le fait de voir ce qu'il y a après. Et la transmission, c'est quand même ça. On est là pour transmettre des choses, construire. En fait, on espère que les savoirs que l'on va donner aux jeunes vont les aider pour vivre. Pas vivre dans le passé et dans la nostalgie, mais vivre et agir.
Ok, donc la transmission d'abord, l'histoire peut-être dans un second temps.
Oui, absolument. Ça aurait pu être de la sociologie s'il y en avait eu, je pense. Ça aurait pu être de la géopolitique. À l'époque, c'est une discipline qu'on n'enseignait pas.
Oui, c'était un mot même encore assez
En 90, géopolitique, c'est 82-83 autour d'Yves Lacoste. Mais à l'époque, je ne sais même pas si j'ai entendu ce mot.
Oui, aujourd'hui, on l'entend à tout bout de champ. Même,
tout le temps.
Même, je trouve,
tout est géopolitique aujourd'hui.
Il y a 10 ans. Oui. Le mot géopolitique aujourd'hui, il est omniprésent.
Il absorbe même d'ailleurs des choses qui n'en sont pas.
Un peu galvaudé.
Il est un peu galvaudé des fois, il est mal utilisé, mais enfin, en tout cas, c'est un mot qui a eu du succès. Donc. Mais voilà, donc l'histoire est venue dans un deuxième temps. Il me fallait, je pense, un support de transmission. Quoi.
D'accord, donc je t'ai interrompu, mais donc...
Non, je t'en prie.
T'es en Allemagne, 18 mois. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette période t'apporte? Et ensuite, comment tu te retrouves à devenir prof? D'abord au lycée, je crois, et du coup, ensuite en classe.
Oui, alors j'ai passé 12 mois d'un coup, alors entre la Ruhr et Göttingen. Puis ensuite, j'y suis revenu deux ans après. Donc, en tout, j'ai agrégé. Mm-hmm. Disons que sur 3 ans, j'ai passé la moitié de mon temps là-bas. À Essen dans la Ruhr, à Göttingen, à Berlin, à Francfort aussi. Donc des villes très différentes aussi. Il n'y a pas un pays anthropologiquement peut-être plus différent que l'Allemagne par rapport à la France, dans un rayon proche en tout cas, hein, bien sûr. Donc c'est une vraie expérience.
Berlin post-fondement du mur.
Et donc on en voyait encore toutes les traces. C'était un moment absolument passionnant. Hein. Berlin, c'était une ville, mais c'était deux mondes encore. C'était une ville réunifiée, mais avec deux mondes. Bon, aujourd'hui, c'est moins visible tout ça. Écoute, moi j'ai continué après la Cagne, bon, puisque j'ai raté normal à très peu. Hein, mais,
et petite parenthèse, tu l'as vraiment mal vécu cet échec? Si on peut appeler ça un échec, hein, mais je ne sais pas comment tu l'as perçu, toi.
C'est un échec factuellement, bien sûr. Quand tu veux réussir un concours et que tu ne l'as pas, c'est un échec. Maintenant, je crois qu'on est construit. Moi, j'aime bien, j'ai découvert ça aussi après, mais les stoïciens, hein, lorsque tu as un obstacle sur ton chemin, cet obstacle définit le nouveau chemin. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et là, on parle ici de la classe prépa. On a parfois des échecs, on vit des résultats comme un échec, etc. On n'a pas l'école qu'on voulait. Mais si on n'a pas l'école qu'on veut, ça définit un autre chemin. C'est le chemin qu'on va prendre et on va en faire quelque chose. Ça, je crois que c'est vraiment une leçon très fondamentale. Alors oui, sur le moment, évidemment. Ouais. D'autant qu'en plus, tu vois, c'est les petites histoires de la vie. Mais je cube et la deuxième année, la note que j'ai eue au concours, la moyenne, m'aurait permis d'intégrer en première année. La barre était légèrement montée, de presque rien. Et elle m'a mis out.
Tu dis que ça joue à rien du tout.
Ça se joue à un dixième. J'avais 75 points, il en fallait 76 pour l'admissibilité. Alors ma force était l'oral et je me disais, bon, si je suis admissible à l'oral, ça va le faire, etc. Mais l'écrit est implacable, hein, bien sûr, c'est la règle. C'est la règle. Et malheureusement, on n'est pas en école de commerce où si on n'a pas normal sup, il y en a une autre, il n'y a rien d'autre.
Et surtout à l'époque, maintenant, aujourd'hui, déjà les cagnes vont en école de commerce.
Absolument.
Les cagnes vont au CELSA, les cagnes vont à Sciences Po, les cagnes vont dans des écoles de traduction. Avant, de ce que je comprends, c'était « bon, bah, t'as l'ENS très bien, et sinon, bonne chance et... ».
Écoute, c'est pire que ça, parce que les écoles de commerce commençaient à s'ouvrir, mais simplement nos profs, et puis nous avions à l'époque un certain dédain. C'est pas, on était des vrais littéraires. Ouais. Et un jour, je me souviens qu'un représentant d'une école de commerce est venu à l'issue d'un de nos cours pour présenter son école. Tout le monde s'est levé et est parti. Donc tu vois, en plus, on était des petits cons. On imaginait qu'on était dans le vrai savoir, etc., etc. Si les choses se reproduisaient aujourd'hui, je ne sais pas quel choix je ferais. Mais bon, c'est ainsi. Mais c'était le tout début, effectivement. Il n'y avait pas de passerelle naturelle.
Oui, bien sûr.
Pas du tout. On n'imaginait pas. Donc c'était normal sup ou rien. C'est pas vrai. Ou la fac. Hein, donc je suis allé en licence à Nancy, où j'ai eu un d'excellents enseignants. Une fac qui, pareil, préparait moins l'agrégation, mais donnait des on avait des enseignants exigeants. J'ai eu une excellente formation à l'université de Nancy 2. C'est là que j'ai rencontré un professeur qui, lui, revenait de 4 ou 5 ans, je ne sais plus, de direction de la mission française historique en Allemagne, à Göttingen, en face de l'Institut Max Planck. Les instituts Max Planck sont les grands instituts de recherche allemands. Il y en a dans tous les domaines, la physique, les mathématiques, l'histoire, donc à Göttingen. Et avec ce prof, on a sympathisé, il est devenu mon directeur de master. Et il m'a envoyé étudier là-bas. J'ai eu une bourse de recherche, en fait. On en tire des choses, tu vois, entre ce professeur de terminale d'histoire qui m'a indiqué que les hippocanecanes existaient. En Cagne, j'ai eu un prof absolument marquant en littérature, le prof qu'on aimerait tout savoir dans sa vie. Je ne sais pas si tu connais le cercle des poètes disparus.
Oui, bien sûr.
C'est le professeur Keating. J'ai eu mon professeur Keating en prof de littérature en Cagne, un gars absolument exceptionnel. Le prof qu'on a tous envie de devenir, tu vois, qui impose le respect par son savoir, à la fois bienveillant, très exigeant, un savant, un érudit, sympa, qui nous faisait rire en classe aussi, qui était capable de monter sur le bureau, nous lire du théâtre en imitant les hommes politiques de l'époque, en disant, voilà, alors lui, ce sera Mitterrand, l'autre, ce sera Chirac, etc. Et c'était absolument extraordinaire. Les cours étaient un spectacle permanent. Un spectacle au sens le plus noble du terme. On était face à quelque chose qui se déroulait devant nous avec un festin intellectuel. Enfin bon. Et puis, donc, ce professeur d'histoire que j'ai rencontré à la fac qui m'a orienté vers l'Allemagne. On doit beaucoup sa vie à des suites de rencontres, parfois des hasards. Certains sont heureux, donc d'autres sont moins, mais en tout cas, là, ce sont des rencontres faites, des gens à qui je dois beaucoup, en fait. Hein.
Mmh. Ouais, ce que tu disais, c'est que l'Allemagne t'a aussi un peu décomplexé vis-à-vis de, bah,
oui.
cet échec très relatif.
Oui, alors, ouais, on revient dessus, tu as raison. Normal Sup, c'est un échec. Je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose de cela. Je fais ma licence, à Nancy. Et je me dis, bon, il faut que je me singularise, que je fasse quelque chose. Je n'étais pas bon en allemand, je m'en veux, je vais essayer de compenser. Bon, pop, je vais en Allemagne. Et puis là, soudain, à l'Institut Max Planck, ce que m'a aidé l'année à l'étranger, je n'ai pas été rencontré de nouvelles cultures. Hein. Ce n'est pas comme ça que je dirais les choses, parce que c'est une vision très superficielle. J'ai vécu dans une culture. J'ai vécu 12 mois en Allemagne, immergé, quasiment sans français autour de moi.
En
Allemagne, en allemand, avec des chercheurs de très haut niveau. Et j'ai pu, à ma manière... Bon, c'est un peu grandiloquent, mais comprendre ce qu'avait ressenti Raymond Aron quand il avait fait son post-doc en Allemagne, ou Marc Bloch, le grand historien, l'idée que pour un Français, à un moment donné, compléter son enseignement d'histoire, ça passait par les grandes études allemandes. J'ai rencontré des professeurs absolument exceptionnels, et l'institut où j'étais, ça a fait tomber, finalement et complètement, le complexe social que j'avais. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des gens absolument immenses. George Eagers, par exemple, un Américain qui était le premier Américain blanc à enseigner. Il était pro-Kennedy dans les années 60. N'oublie pas, on est en 93-94. Donc, 30 ans avant, c'est la différence qui me sépare de ce moment-là, d'ailleurs. Donc, il y a 60 ans maintenant, mais à l'époque, c'était 30 ans avant. Eh bien, Eagers avait été le premier prof blanc à vouloir enseigner dans une école noire après la fin des lois ségrégationnistes.
Oui, c'est ça. C'était à l'époque où Kennedy avait...
Absolument. Il était démocrate et il voulait absolument participer lui-même, etc. Donc, il me parlait de ces moments où, accompagné par la police pour pouvoir rentrer dans l'école. Enfin. Et donc, j'ai rencontré des gens de très, très haut niveau. Une chose qui m'a frappé, notamment chez les anglo-saxons, c'est leur incroyable facilité de contact. Tu es à l'Institut Max Planck, il y a une cuisine, une TQ, où tu peux te faire un café. Tu y vas à 11h du matin, tu vois ce prof de renommée internationale, tu lui dis bonjour, et il te dit « Hey, how do you do ?»« Great, oh, let's talk », etc.
Il s'en fiche de qui t'es.
T'es boursier, t'es le nouveau jeune boursier, ben, très bien, alors raconte-moi, etc. Tu fais ton travail sur quoi, intéressant, ou etc. Bon. Et donc, tu te dis, en fait, ces gens sont à fois impressionnants par le cursus, par les diplômes, par les facultés américaines où ils enseignent, tu vois, de l'Ivy League ou à Chicago ou autre. Et puis, en fait, au contact, c'est très simple. C'est très simple. Ça m'a beaucoup décomplexé, en fait. Et ça m'a permis ensuite, l'année suivante, j'ai intégré le Paris 1, Panthéon-Sorbonne, me préparer la grecque, de l'avoir assez facilement du premier coup. Non pas par génie, mais parce que je crois que j'avais surmonté un certain nombre d'obstacles qui étaient... Ce que je vois aujourd'hui chez certains de mes étudiants de prépa, c'est le manque de confiance en soi. Et on le sait tous, son pire ennemi, c'est soi-même. Des fois, on se dit « Non, ça, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, je ne le mérite pas, c'est pas mon monde, etc. Ouais. » Et là, j'avais rencontré le monde d'en haut, et en fait, c'était des gens normaux. Je me disais qu'après tout, peut-être moi-même, je pouvais réussir. Il n'y avait pas d'obstacle à l'absence de réussite. En fait, j'ai vaincu un problème... personnel, hein, ce complexe parfois qu'on a de se dire qu'on n'est pas fait pour quelque chose, et je dois aller encore beaucoup à ces rencontres universitaires, en fait.
C'est drôle ce que tu dis, parce que on avait longuement parlé dans un autre épisode avec une fille qui s'appelle Yasmine, qui a intégré HEC par la suite, et d'un mot qui, enfin, je sais pas si tu connais cette expression là mais c'est devenu quelque chose de comment dire, un syntagme hyper fréquent maintenant, qui est le syndrome de l'imposteur.
Oui,
c'est
bien sûr
ce que tu dis là.
Oui, bien sûr.
Et elle avait vraiment, elle disait, mais moi, en fait, après les, quand j'étais admissible à HEC, je me suis dit, en fait, je suis une supercherie. Et OK, pendant les crises, c'est passé parce que voilà, je suis caché derrière ma copie. Mais quand je vais me pointer à jouer en Josas,
ils vont voir.
Ils vont s'en rendre compte que je suis un peu teuteux, quoi. Alors, enfin, tu vois, et alors qu'elle est brillante, cette fille. Mais,
bien sûr,
vois,
bien sûr. Mais
persuadée de ça, bien sûr. Quoi.
Alors ça, c'est effectivement la version moderne. Moi, je n'ai pas ressenti le syndrome de l'imposteur. Je me disais simplement que je ne le méritais pas jusqu'à la maîtrise, jusqu'au master 1. Et puis après, je me suis dit, mais enfin, je suis avec eux là, je participe. Alors je suis dans mon bac à sable, mais dans la cour des grands, parce que j'étais un jeune étudiant, j'avais face à moi des profs de 40, 50, 60 ans, donc j'étais encore une fois dans le bac à sable. Hein. Ouais. Je faisais des petits châteaux, des murailles, mais je les voyais, on discutait, ils me reconnaissaient comme tel. Et en fait, se faire reconnaître est très important quand on est jeune, parce qu'on se dit, après tout, bah, peut-être qu'en fait, je le mérite. Donc, ça m'a permis de me débarrasser, effectivement, d'un syndrome, d'un complexe, tout simplement. hein, d'un complexe, de là où l'on vient, de ce que l'on a fait, qui est extrêmement important. Je vois beaucoup de mes étudiants qui souffrent, pas parce qu'ils ont des problèmes intellectuels, pas parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, mais ils se freinent eux-mêmes. Ils se disent que, comme le disait Yasmine, c'est ça ?
Oui, Yasmine.
Ils ne pensent qu'ils ne méritent pas telle ou telle école. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Vu la sélectivité en classe prépa, quand un dossier est accepté, c'est que les profs, nous, qui avons sélectionné le dossier, on pense que la personne peut réussir. Et si nous, on pense qu'elle peut réussir, ben, il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. C'est nous les testeurs. C'est nous les professionnels de la sélection. Donc si on sélectionne un dossier, c'est qu'on pense que la personne peut réussir. Et en travaillant, on peut tous réussir à son niveau, c'est évident.
Mais justement, pour aborder cette deuxième partie de ce qu'a été la classe prépa pour toi, à savoir de l'autre côté, ton métier à proprement parler, celui d'enseignant. Donc tu as la grègue relativement, enfin facilement, je ne sais pas si c'est le terme, mais au la main, on va dire, entre grosses guillemets. Comment ça se passe pour toi ensuite et comment tu viens à intégrer in fine la classe préparatoire?
Alors, je vais répondre par un poil de théorie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans la vie, on réussit parce qu'on a des compétences, c'est vrai. Mais tous les gens qui ont des compétences ne réussissent pas. Il y a le hasard joue un rôle important. On va penser à le hasard, la chance, etc. Je ne crois pas au destin, pas du tout. Je crois que rien n'est déterminé par avance, mais il y a des hasards. Alors, des hasards heureux, des rencontres, etc. Après, le fait que je maîtrise l'allemand a été un hasard parce que je voulais, en quelque sorte, me singulariser, peut-être, puis aussi essayer de compenser ce que je ressentais comme une tare originelle, c'est-à-dire cette absence de maîtrise de langue qui m'avait tellement pénalisé au concours. Bon, très bien. Donc, je maîtrise l'allemand. Je passe la grègue, et puis...
La grègue en histoire.
La grègue d'histoire, oui, tout à fait. Je fais mon stage à Orléans pendant un an, et puis au cours du stage, le ministère des Affaires étrangères monte avec le ministère de l'Éducation nationale, je crois que je ne me trompe pas en disant ça, un programme de formation de profs bilingues allemands. Hein, n'oublie pas, c'est le moment où sont créées les sections européennes, où on enseigne l'histoire en allemand ou en anglais, mais la France et l'Allemagne, ce sont les pays qui financent le plus les échanges bilatéraux dans le monde.
Oui.
Et le ministère se dit, mais on va former des profs. Et puis donc, ils font un appel au niveau national, et finalement, il y avait 14 places, et on a été 7, parce que presque personne ne parlait assez bien l'allemand pour se projeter dans cette formation. Donc, pendant mon stage d'agrég, j'ai quitté Orléans pendant 3 mois, j'ai passé 3 mois à Francfort, où j'ai suivi des cours d'histoire, de géographie, de sciences sociales, au fond de la classe, pendant un mois, et où j'ai donné des cours, j'ai enseigné la Révolution française et l'Empire à des jeunes Allemands.
En allemand.
Voilà. Et puis à la fin, donc, j'ai reçu un diplôme, si tu veux, enfin une attestation disant que j'étais capable d'enseigner l'histoire en allemand. Et finalement, cette maîtrise de l'allemand m'a permis de suivre cette formation, à l'issue de la formation, d'obtenir une certification, et à l'époque, de postuler ensuite pour des lycées un peu partout en France. Et voilà que je me retrouve donc à 25 ans dans Paris intramuros, alors que normalement, à l'ancienneté, c'est extrêmement difficile à avoir. Au lycée Paul Valéry. Et puis, 4 ans plus tard, une section européenne s'ouvre au lycée Henri IV. Je postule et je suis pris. J'étais le seul candidat, je crois, sur le poste.
Okay.
Donc je me retrouve à 29 ans, prof Henri IV.
Ouais, pas rien, quoi. C'est rare d'être prof Henri IV aussi rapidement.
La moyenne d'âge était de 54 ans à l'époque.
Ouais, okay.
Et j'étais le premier prof à demander un congé paternité à l'établissement. c'était jamais arrivé. Mon fils est né lors de la rentrée 2001. Et je retrouve Henri IV, un truc absolument incroyable. Le fameux professeur de Cagne dont je t'ai parlé, qui était extraordinaire. Je l'ai eu en Cagne en 92-93. Je suis nommé Henri IV en 2001 et entre-temps, il était devenu prof en classe prépa Henri IV.
Ok.
Et je dis ça à tout le monde, donc là, je vais perdre des points en respectabilité, mais donc je le retrouve à la rentrée, il me dit « Meunier, qu'est-ce que vous foutez là ?» Alors je dis « Bah, monsieur, j'ai été nommé. »« Oh non ! Oh, qu'est-ce que le niveau a baissé ?» Alors je lui dis « Ouais, non, arrêtez, quoi, pas vous, etc. » Voilà.
Oui, il disait ça, il y avait un peu premier degré.
Oui, non, mais c'est de la provoque, évidemment. Mais bon, peut-être aussi le pensait-il, il a lu mes copies, donc... j'étais un bon élève, mais j'étais pas non plus toujours transcendant en littérature. Et on est resté très en contact, hein, bien sûr. Mais c'était de s'adonner mon collègue. Alors, il était en prépa, moi au lycée, mais...
Ouais, ça fait bizarre.
Bizarre, il donnait mon collègue 7 ans après, quoi, à peine.
Ouais, c'est court, et puis je trouve que surtout, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, Tu vois, aujourd'hui, ma prof de prépa de Géopo,
bien sûr,
qui était ma matière préférée, je la connais très bien, on se tutoie.
Oui, donc tu travailles avec Anne.
On fait des podcasts ensemble. Voilà. Voilà, c'est super.
Et c'était
sympa,
il y a 7 ans.
Exactement. Elle me raconte, c'est voilà. Et c'est ça. Et ça, c'était. Et 7 ans avant, bah, j'étais son élève. Et mais dans ma tête, c'était un demi-dieu.
Elle
enfin, vraiment, tu vois, dans ma tête.
Une demi-déesse, attention.
Oui, une demi-déesse, pardon. Dans ma tête, le soir, on la débranchait, on la mettait dans un.
Elle n'avait pas de vie, c'était bien sûr.
Ou alors on la branchait à un je sais pas quoi, et elle prenait des connaissances. J'avais un sentiment qu'elle savait tout sur tout. Que, tu vois, et donc j'imagine ce que ça a dû te faire, même en tant que prof, tu vois, de revoir ce gars.
De revoir ce gars qui était sûrement le plus grand prof que j'ai eu. J'ai oublié de mentionner un professeur de français que j'ai eu au lycée aussi, qui était Monsieur Pourca, qui était quelqu'un qui est toujours, d'ailleurs on est en contact, quelqu'un d'exceptionnel dans quelques rencontres. Mais alors, effectivement, ce prof de Cagne était tout à fait atypique, et puis surtout, ça devient mon collègue Henri IV. En même temps, encore une fois, il y a l'idée de reconnaissance, après tout, on se retrouve là, et puis à un moment donné, j'espère qu'il a oublié les copies que je lui faisais, ou l'école.
Il y a
prescription, on sait qu'on grandit aussi, et ça c'est quelque chose que j'aimerais dire à tous les jeunes qui peuvent nous écouter, c'est qu'on grandit, on change, on mûrit, bien sûr, et encore une fois, les accidents qui peuvent arriver, définissent les nouvelles voies. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'échec. On est la somme de ses succès, la somme de ses échecs, et puis c'est une richesse aussi. Je crois que les gens, tu sais, peut-être le voit-on aujourd'hui à haut niveau, au pouvoir, mais les gens qui ont des trajectoires en ligne droite, tu sais, Nicolas Nassim Taleb, le cygne noir, il dit dans des bouquins, il répète ça souvent, que les gens qui n'ont pas de blessures sont des gens moins complets. Parce que les échecs et les blessures, ça fait partie de la vie. Donc, être absolument sans échec et sans blessure, ça fait paradoxalement quelqu'un de moins complet. Ça peut être un peu surprenant.
C'est un peu l'idée de Nietzsche aussi, les coups qu'on reçoit.
Bien sûr, tout ce qui ne tue pas me rend plus fort, bien sûr. Ouais. Cette idée antique, en fait, si tu veux, hein, que c'est aussi dans l'affrontement qu'on découvre des parties de soi et qu'on sait qu'on peut y faire face, justement. Hein. Voilà.
Donc sur le métier de prof, du coup, que tu as découvert dans des très hautes sphères assez rapidement, est-ce que c'était conforme à l'idée que tu te faisais de ce métier-là, et sur la prépa en particulier, puisque après vite t'as transitionné vers la prépa, c'est quoi finalement la réalité d'un prof de prépa? Justement, c'est ce que je disais à l'instant, quand t'es élève, je pense que t'as du mal un peu à te le figurer, t'as relativement peu d'heures, mais t'as beaucoup de travail à côté, j'imagine. Enfin, c'est quoi un petit peu... peut-être que ton quotidien n'est pas très représentatif de la majorité des profs de prépa.
Je sais pas, c'est difficile. C'est des choses, finalement, dont on parle pas tant que ça entre collègues. Mais alors, peut-être, avant de répondre à ta question, pour y répondre plutôt, peut-être plusieurs choses. On est tous très différents les uns des autres. Moi, je sais que j'ai besoin de travailler, en fait. C'est quelque chose qui me tient. C'est comme du sport. Je pense que tu fais beaucoup de sport, tu cours. Il y a une forme d'addiction, en quelque sorte. Ça te fait du bien. Moi, j'aime bien travailler. J'aime bien apprendre. J'aime bien changer d'activité aussi. Et puis, après, ça, c'est ce que j'aime. Puis, on a aussi des peurs, ou des craintes, en tout cas. Et une de mes craintes était de me fossiliser. Parce que tu vois, en prépa, par exemple, je t'ai parlé de ce professeur tout à fait exceptionnel, mais j'ai aussi connu des professeurs en fin de carrière qui étaient des profs toujours bien, il n'y a pas de problème, mais dont on sentait l'usure. Ils étaient usés, fatigués, les corrections de copies, on sentait que ça leur pesait beaucoup quand j'étais étudiant en prépa. Et je sais que c'est quelque chose, moi, qui a été une forme de mise en garde pour moi. C'est-à-dire me dire, bon, il ne faut tout de même pas que je ronronne, que je garde la même activité, exactement la même manière de faire les cours, de travailler, etc. Car je ne vais pas un jour me réveiller en me disant, je n'en peux plus, je suis épuisé.
C'est la même chose qu'il y a 10 ans. Et
ça sera pareil, il reste encore 15 ans, 20 ans, etc. Bon, alors, partant de là, si tu veux, je travaille beaucoup, bien sûr, en plus on est en géopolitique, et donc, j'allais te dire, quand il se passe une crise internationale, je ne sais pas, mais en deuxième année, par exemple, je dois renouveler peut-être un quart à un tiers de mes slides, donc un cours, ça fait 200 slides, j'en fais plusieurs, enfin, il y a quoi, 2000
Mon Dieu. J'ai jamais compté ça avant.
1000 slides peut-être, imagine que ça fait 200 nouvelles avec derrière ce qu'il y a, donc il faut lire la presse, écouter les podcasts d'actualité, penser si possible, se rendre à des conférences quand on peut par exemple. Bon, ça représente énormément de temps en fait, bon, ça c'est une chose. Et puis autre chose, c'est que dans le cadre du continuum prépa grande école, j'ai eu la possibilité il y a 6 ans d'aller enseigner à Schema. Comme mon collègue, par exemple, Frédéric Boitéché, qui enseigne à Audencia. Je crois que c'est des choses importantes aussi, parce que ça m'a aidé aussi à comprendre mieux ce que je faisais en prépa, puisque je comprenais mieux comment ce que je faisais était utilisé en école.
Mais t'as jamais eu, parce que, enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de profs de prépa, peut-être moins en économie commerciale et encore que, mais qui sont quand même, qui ont une certaine, comment dire, c'est à la limite de la schizophrénie, quoi. Ils aiment bien ce qu'ils enseignent, mais ils aiment pas trop pourquoi ils enseignent, à savoir, bah, finalement, la finalité de la prépa commerce, qui est d'aller en école de commerce.
Tu veux dire,
t'as jamais eu ce sentiment-là?
Non, parce que... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, nos profs, par exemple, j'avais certains professeurs, en tout cas pas tous, hein, mais en Hippocagne, qui enseignaient l'art pour l'art. Voilà, il fallait savoir la littérature, la philosophie, pour la littérature et la philosophie. C'est quelque chose, je te dis justement, cette lecture de Nietzsche, parce que l'intempestive commence comme ça. Hein. Übrigens ist mir alles verhasst, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit zu verstärken. Du reste, il m'est haïssable tout ce qui fait que m'enseigner sans augmenter mon activité vitale. C'est-à-dire, Nietzsche dit, si c'est l'art pour l'art et que ça n'augmente pas ma capacité de vie, ça n'a aucune valeur. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et donc, l'idée que ce que j'enseigne n'a pas seulement a de la valeur pour lui-même, c'est intéressant, bien sûr, mais que si ça n'a pas la possibilité, la géopo, de montrer des schèmes de fonctionnement, des schèmes de raisonnement, de donner aux jeunes aussi la possibilité de se dire, bah, si j'avais été dans cette situation internationale, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et moi, plus tard, en tant que stratège dans une entreprise, dans un business, comment je vais faire? Comment est-ce que j'agis? Si je veux obtenir quelque chose de toi, est-ce que je vais utiliser la coercition? Est-ce qu'au contraire, je vais essayer d'utiliser l'influence? Si je pense qu'on fait face à un programme, à un problème commun, est-ce que je vais t'affronter, hein, ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de faire de la puissance ensemble face à ce problème commun, etc. La géopolitique m'a semblé être une matière, de ce point de vue-là, très opérationnelle, qu'on peut enseigner pour le plaisir de connaître l'histoire, la géographie, etc., mais qui est une matière qui nous permet en quelque sorte d'agir, de penser pour agir. Et si, à mes yeux en tout cas, une matière qui ne serait que plaisir intellectuel serait châtrée, serait limitée en quelque sorte. Bon, c'est ainsi que je vois les choses. Je comprends aussi qu'on puisse le voir complètement différemment. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà pourquoi aussi on peut travailler avec plaisir, apprendre avec plaisir, changer aussi ses cours. J'aurais peur d'un cours qui soit identique année après année. J'aurais peur de m'enfoncer dans la routine. Et enseigner en école m'a permis aussi peut-être rétroactivement, ou plutôt dans le sens inverse, d'enrichir aussi les cours de prépa en dirigeant un peu ses savoirs vers des choses assez appliquer, si tu veux, tu vois. Donc, ça a été quelque chose aussi, je pense, une étape importante, un petit peu, pour éviter de se rouiller. En tout cas, c'est la peur que j'en ai. Je ne dis pas que si on n'est que prof en prépa, on se rouille. On parle bien ici, vraiment, tout cet entretien est sur un mode subjectif. C'est ainsi que je le vis et que je le fais. Mais voilà, il y a quelque chose, je crois, il est important, dans certaines disciplines, de savoir dire quel type d'adultes elles vont former, quelles compétences, par exemple. On parle de compétences transférables, c'est-à-dire les compétences qu'on va acquérir dans cette matière, comment on va pouvoir les transférer dans le monde du business. Je suis persuadé que tes cours de géopolitique de prépa t'ont aidé ou t'aident aujourd'hui dans la manière dont tu mènes majeure prépa, parce que les compétences que tu as acquises dans ces disciplines-là sont transférables, en fait, dans la vie.
Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et puis moi, j'ai la chance d'être quand même à la croisée des chemins. En fait, je passe autant de temps avec des profs de prépa, des élèves de prépa,
c'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi,
que des, c'est vrai aussi. Ben, du côté entreprise,
absolument.
Et mon temps est subdivisé en deux, et je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que j'aurais pas aimé faire que l'un ou que l'autre. Mais bon, enfin, c'est finalement aussi toi ce que tu fais dans un autre registre. Mais...
Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis bon, on nous contacte des étudiants qui nous aident, j'espère, à devenir, à rester.
Oui, pas trop.
C'est toi qui l'as dit. on y échappe peut-être jamais, mais bon. Et une chose que j'ai découvert en revanche sur le boulot et que je n'imaginais pas à ce point-là, c'est qu'une part importante du boulot est chez soi et seule. La préparation des cours.
Il y a une partie très solitaire.
Les élèves, tu en parlais, tu vois ta prof peu d'heures par semaine, c'est le morceau d'iceberg que tu vois. Évidemment, le reste, c'est beaucoup de préparation de cours, beaucoup de lecture, les corrections de copies. Hein, on ne casserait pas une copie de géopo, c'est 20-30 minutes, un paquet, c'est 20 heures de correction. Imagine.
Oui, bien sûr.
Hein, tu sais que nos heures, je ne sais pas si les gens le savent, mais nos heures sont comptabilisées 1 heure égale 1 heure et demie à cause de l'effort physique. C'est-à-dire que quand tu fais 3 heures de cours, c'est 4 heures et demie de boulot, si tu veux compter. Donc imagine, tu as un service à, je ne sais pas, 10-12 heures, ça fait 16-18, ajoute 20, même 20 heures, un paquet de copies à 38, tu es déjà au-dessus des 35 heures. Une semaine de 35 heures, pour beaucoup de profs de prépa, ça n'existe pas. Donc c'est beaucoup de travail, évidemment, beaucoup d'efforts. Et en même temps, derrière, la satisfaction de former des jeunes, la satisfaction de les voir réussir aussi, qui est énorme, hein, bien sûr. Et en ECG, tout le monde réussit.
Ouais. Et c'est ça, ta satisfaction première, c'est quoi? Tu vois, tu devais garder, j'imagine, c'est composite, mais s'il y a vraiment un truc, tu vois, qui te fait vraiment, qui fait entre grosses guillemets en tant que prof. Tu parlais tout à l'heure de ton prof en Cagne qui t'avait marqué, inspiré. Est-ce que c'est ça finalement le côté auquel j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu changé la trajectoire de quelqu'un dans sa vie? Qu'est-ce qui t'anime le plus?
Ça c'est vrai, mais très honnêtement, bon, je pense que c'est un peu narcissique, c'est-à-dire mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu être important quand même pour eux. Bon, très bien. Bon, si c'est le cas pour certains, tant mieux, hein, bon, bien sûr. Mais non, ce qui est vraiment objectif, c'est de se dire, pas tellement combien je les ai changés, parce qu'en plus, c'est très difficile. Ils le verront ou pas. Et s'ils le voient, c'est dans un 5, 10, peut-être parfois beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a des moments de la vie où ils repenseront peut-être à ce qu'ils ont vécu en prépa, avec leurs profs, avec leurs copains, lors des épreuves, lors en école, toi-même. Il y a des choses que tu reliras différemment avec le temps passant. En revanche, ce qui est sûr, et ce qu'on peut voir très nettement, c'est, voilà, c'est le contentement de se dire, voilà, le travail qui a été fait, que je leur ai demandé, n'a pas été fait en vain, ils ont réussi. Ils ont réussi, et ils réussissent. Hein, ils réussissent.
Donc c'est leur réussite.
Je crois, on se dit qu'on participe de ça. Non pas je vais changer leur vie, parce que c'est trop tôt pour le dire. Mais bon, on participe à une réussite. Et puis on participe, ce que je disais, à cette passation, c'est-à-dire de transmettre des choses du passé. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, a une très belle image. Elle dit que les adultes, elle dit que le présent est comme une faille, et que nous avons un pied dans le passé, tout ce qui s'est passé avant nous, mais il faut que les jeunes, on les aide à enjamber la faille du présent. Et nous, nous sommes là, les adultes, quand on est père, par exemple, enfin parent, les professeurs, évidemment, quand on est prof, on est là pour aider les jeunes à enjamber la faille du présent. Et ça, c'est un vrai contentement. On sent qu'on a une part active là-dedans. Maintenant, ce que ça va faire sur leur vie à 5, 10, 20,
ouais,
30 ans...
Ouais, tu peux pas trop savoir. Et...
Bon, et ce serait très présomptueux de dire « j'ai radicalement modifié la vie de ces jeunes ». Ni eux ni moi ne le savent vraiment, en fait.
Après, oui, tu peux pas savoir précisément, tu peux pas lire 10 ans, 20 ans, mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de la prépa, peut-être assez rapidement, tu vois, quelques semaines après, qui se disent « ouais, quand même, c'est maintenant que je peux respirer un peu ».
Alors,
qu'est-ce que ça m'a transformé ?
C'est dû à la prépa, c'est dû au prof, c'est aussi dû à votre âge en prépa. C'est-à-dire que entre 18 et 20, 21 ans, on change incroyablement. Alors si en plus, on a la possibilité de changer dans un milieu intellectuel très porteur, un milieu qui est à la fois intello, exigeant, vous allez donner le meilleur de vous-même. Tu citais Nietzsche tout à l'heure, mais il y a un autre mot de Nietzsche que j'aime bien, il reprend Pindare, hein, c'est son impératif catégorique, c'est pas l'impératif conscient, c'est « deviens ce que tu es ». Si l'école avait un projet, c'est qu'elle puisse faire devenir chacun ce qu'il a le potentiel de devenir. Un grand sportif, un prof de philo, un savant, un traducteur, je ne sais pas. Enfin, mais que ce que les gens... Et d'ailleurs, on a plusieurs potentiels en nous, on pourrait devenir plusieurs choses. Mais qu'au moins, l'école éveille des gens à une fibre en eux qui leur permette de devenir ce qu'ils sont. Je crois que c'est le projet le plus noble, bien sûr. Permettre l'accomplissement, pas le dépassement de soi. Hein, c'est un truc sur lequel j'insiste souvent, on ne se dépasse pas. On ne peut pas courir plus vite que ses muscles, ça s'appelle du dopage. On ne peut pas se dépasser, on peut se réaliser. C'est très différent. Mmh, et oui. Devenir ce que l'on est, c'est peut-être le projet le plus noble pour l'école, pour les profs, et la réussite la plus belle pour les jeunes.
Si on revient à des considérations plus larges, forcément, je n'ai pas envie de te poser une question trop tarte à la crème, mais la prépa est en délicatesse aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu la réforme du lycée qui a pas mal impacté notamment la prépa ECG. De manière plus générale, il y a un discours selon lequel la prépa serait un peu dépassée. Bon, enfin, bref, je n'ai pas envie de rentrer non plus trop dans ces poncifs-là, mais comment tu juges et comment tu évalues un peu l'évolution de la classe prépa? Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? C'est quoi un peu ton sentiment, toi qui connais intimement la classe prépa depuis plusieurs décennies maintenant?
Alors bon, pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté, hein, c'est Gramsci. Moi, je ne crois pas du tout à tous ces discours sur la fin d'eux. D'abord, en France, on est spécialiste, on a trop tendance à identifier les changements comme des fins. Si ça change, c'est foutu. Et enfin, ça change. Bon, la deuxième chose, c'est que les effectifs ont remonté cette année. Il faut quand même imaginer qu'on a perdu 40% du vivier de matheux. Il y a du discours de bashing partout. Et dans ce contexte-là, on arrive à remonter. Imagines-tu une entreprise qui perdrait 40% de son marché potentiel, de laquelle tout le monde dirait du mal, et qui prend plus 5% de croissance?
Oui, c'est vrai. Oui, bon. Vu comme ça, bien sûr.
Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, pourquoi aujourd'hui, quand je passe sur les salons, par exemple, pour expliquer ce que sont les classes préparatoires, les jeunes et les parents comprennent de plus en plus que le lycée a subi beaucoup de réformes. On sait que le métier de prof est de moins en moins attractif. Ils savent, on a perdu à peu près un an de niveau de maths en 10 ans. Mmh. Les parents et les jeunes, aujourd'hui, pour un certain nombre, sont complètement conscients qu'il faut à un moment donné une sorte de correctif, une sorte d'ascenseur qui permette de restabiliser le niveau, de se développer, de s'étoffer, etc. Et je trouve beaucoup moins de mal qu'il y a 5, 6, 7, 8 ans à défendre le modèle des classes préparatoires, parce que de toute façon, dans tous les pays du monde, les 2-3 premières années d'enseignement supérieur sont des années généralistes qui visent à former, hein, comme dit Edgar Morin, c'est l'intelligence générale qui résout des problèmes particuliers, et pas l'inverse. Le plus tôt, on se spécialise, on aura un job, mais le plus vite, on se ferme des portes aussi. Alors que le système prépa, dans sa formation générale, générique et humanistique, donne toutes les clés pour changer de job, évoluer, comprendre ce qui se passe, être smart en quelque sorte. Et aujourd'hui, on voit bien sur les salons que les différentes voies d'accès vers les grandes écoles de management, donc la prépa historiquement, la colonne vertébrale, les bachelors ou les AST par exemple par la fac, eh bien, il est de plus en plus clair de distinguer les publics. Ce n'est pas les mêmes publics. Et auparavant, les gens avaient l'impression que c'était la même chose, mais dans un cas plus facile, parce qu'on entrait directement dans l'école, par exemple en bachelor, et mais plus difficile pour la prépa. Ce n'est pas du tout les mêmes finalités, en fait. La formation initiale est très, très différente. Et ça, je vois bien dans les salons que les gens le comprennent maintenant aisément. La formation générale qui est donnée en prépa est unique. Et aussi, c'est la raison pour laquelle, même si on est diplômé, même si les diplômes sont les mêmes à la fin, les gens passés par la prépa ont... Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, bien sûr, mais en tout cas, la formation est faite pour donner plus de culture générale. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas si on ne l'a pas fait. Oui. Elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour donner immédiatement des savoirs en management, en stratégie, en marketing, qui sont très utiles, bien sûr. Mais, encore une fois, moi je suis plutôt optimiste sur le fait que, de toute façon, dans la compétition mondiale, il faut des filières d'excellence. Et j'entends donc pas l'excellence de la naissance, hein, les aristocrates les eupatrides, mais une excellence par le travail, excello ça veut dire s'extraire, hein, sortir du lot, une excellence par le travail, tout simplement une nation en a besoin. Une nation en a besoin. Donc les classes prépa sont pas faites pour tout le monde, et d'ailleurs elles ne conviennent pas forcément à tout le monde. On peut réussir par d'autres voies, mais il me semble qu'il y aura toujours besoin au niveau national de ce type de formation, hein, qui poussera les jeunes vers des formes d'excellence, parce qu'elle est faite pour cela. Et encore une fois, que je me fasse bien comprendre, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres formes d'excellence, je ne dis pas qu'il y a plusieurs formes d'excellence d'ailleurs, je ne dis pas qu'il y a d'autres voies. Mais en tout cas, la voie prépa, sa spécificité, c'est aussi ce qui fait sa force. Pendant 18 mois, on est drivé par une équipe de profs dévolue à la réussite, par un environnement destiné au travail, par le système d'école qui permet d'acquérir les connaissances que l'on a vues en cours. C'est un système très vertueux, si tu veux, et qui n'est pas si cher, puisque quand on divise le fameux budget de 15 000 par étudiant par an...
Oui, c'est un peu l'argumentaire des détracteurs.
Bon,
c'est trop cher.
Il faut passer de l'addition à la division. Quand on divise par le nombre d'heures, ça coûte 15 000, mais il y a deux fois plus de cours que dans les autres formations. Donc en fait, c'est moins cher à l'heure. C'est moins cher à l'heure. Mm-hmm. Pour le dire autrement, c'est plus efficient.
Oui,
c'est probablement un des systèmes les plus efficients.
Si tu raisonnes,
et le retour sur investissement, c'est plus efficient, évidemment. Ouais. Et encore une fois, ce n'est pas dober les autres que de dire ça. Le système a des limites, il est très exigeant, parfois c'est dur, ça peut être dur psychologiquement, parce qu'on est mis à rude épreuve, c'est vrai. Mais il a aussi des vertus, tout simplement. Et je crois qu'il y a la place dans le supérieur pour plusieurs systèmes qui permettent d'accéder à telle école. Tout simplement. Donc je suis... on peut être pessimiste parfois, les ministres de l'Éducation nationale n'ont pas toujours été très regardants là-dessus. Même quand ils étaient sortis de prépa, ils avaient tendance à l'oublier.
Oui, même quand ils ont dirigé certaines écoles.
Voilà,
oui,
ça peut. Mais en même temps, encore une fois, c'est un système vertueux, tout simplement. Et on a besoin de ce genre de système. On n'a pas besoin que de ça, mais on a besoin de ça dans un pays.
Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis assez souvent, c'est que la prépa n'est pas faite pour tout le monde. Alors, il y a d'autres formes d'excellence et il y en a qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce système-là, mais je pense qu'il y a davantage de gens qui pourraient s'y développer,
bien sûr,
et aimer,
bien sûr.
Et qui se mettent tout de suite des barrières parce qu'on leur a dit que c'était horrible, parce qu'on leur a dit qu'il y avait plus facile, parce que pour plein de raisons. Et justement, sur ces élèves-là, il y a eu beaucoup de difficultés liées à la réforme du lycée. Il y a le Covid en plus qui est passé par là. Et même, il y a aussi une question, je pense, générationnelle. Moi, je pense que c'est les premières années où j'ai l'impression que les prépas qui sont aujourd'hui en prépa ne sont pas tout à fait... les préparationnaires, mes camarades de classe que j'ai connus, je trouve qu'on ne raisonne plus tout à fait pareil, on est un peu différent. Comment tu le perçois? Est-ce que tu as l'impression que tu as adapté ton enseignement à cette génération-là? Comment tu vois ça?
Oui, alors peut-être. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je me suis dit que je ne pouvais plus professer en top-down. C'est-à-dire, j'arrive, je fais mon cours, et puis ils prennent des notes. À un moment donné, je me suis dit que j'avais l'impression de faire des dictées. Et puis surtout que comme ils étaient rivés à ce que je disais, sans avoir le recul nécessaire pour l'absorber. Donc, je suis passé il y a quelques années en pédagogie inversée, vraiment. Donc, il y a un fichier PowerPoint, le cours est dedans, je le donne à étudier à l'avance, et ça me permet, en cours, de revenir sur les points importants, d'approfondir, et donc de faire un cours plus dynamique et moins dicté. Ou moins, voilà. En tout cas, c'est la manière dont moi j'ai résolu les choses. On peut tout à fait faire des cours magistraux, classiques. Je crois que là-dessus, chacun fait avec ce qu'il est. Moi, en tout cas, ça ne me convenait plus. C'est ma manière un petit peu de m'adapter. Joli, c'est joli. Ça a été ma manière de m'adapter. Maintenant, on a des contraintes en prépa. Il y a une grande délivrance de savoir. Donc, on est quand même obligé de donner du savoir. La question, c'est est-ce qu'on le donne de manière magistrale ou est-ce qu'on le donne un peu à l'avance? Est-ce qu'on pousse les élèves à faire du travail parfois en autonomie, en dehors des cours, hein, en disant voilà, travaillez ici, écoutez tel podcast. Donc, on a une petite plateforme, on utilise Slack. Bien sûr, on prépa. Et donc, lorsque j'écoute un podcast, alors j'en écoute plein. Et on peut pas. Ils font des maths, ils font de la culture G, ils font des langues, donc ils peuvent pas. C'est mon job d'écouter et de sélectionner. Et donc, lorsque je trouve par exemple un podcast absolument intéressant ou un article, je scanne l'article ou j'envoie le lien vers le podcast en disant voilà, celui-ci dure 5 minutes, écoutez-le. Ou cet article, c'est une page, vous verrez, c'est très clair sur telle question. Donc, il y a aussi, tu vois, ce contact en dehors du cours par lequel tu fais passer un certain nombre d'informations. Ça, c'est nouveau, ça n'existe. On ne pouvait pas faire ça il y a 10 ans, en fait.
Oui, c'est vrai. Rien que ça, au-delà des élèves qui ont changé, il y a le contexte global qui a changé. Et nous, on avait... En fait, c'était l'époque où tu n'avais même pas trop Internet sur ton... Non. Moi, à l'époque, on avait genre 1 giga, donc tu ne faisais pas grand-chose.
Bien sûr,
chose,
tu ne pouvais pas faire grand-chose, bien sûr.
C'est ça. Et la plupart du temps, même, on laissait notre téléphone à l'internat. Et puis
absolument.
Ce qui n'est plus
le cas non plus. Donc, il faut aussi s'adapter à... Alors, c'est le côté. Parfois, ils peuvent te challenger parce que le chiffre que tu as donné, ils viennent de vérifier que... Moi, je m'appuie maintenant beaucoup sur eux. C'est-à-dire, quand je fais cours, parfois, il m'arrive de dire, ah ben tiens, vous pouvez vérifier la date de tel ouvrage ou tiens, voyons cet exemple ensemble, il est intéressant, faites-moi une recherche là-dessus. Et ensuite, on construit ensemble une fiche exemple avec quelques données. Tiens, monsieur Yassi, monsieur Assa, tac, tac, tac. Et voilà, et on arrive à une fiche exemple en disant, regardez, ensemble, on vient de construire un super exemple sur... telle question, tel thème, telle donnée, telle ressource. Voilà. Donc, j'essaie en classe, autant que faire se peut, qu'on fasse de la construction un peu collective, puisque le savoir a été donné auparavant en termes de pédagogie inversée. Bon.
Ouais, d'accord, ok. Donc, t'as quand même fait évoluer de ce point de vue-là, en sachant que, de toute façon, il y a quand même le coup près du concours. Donc, à un moment.
Il y a le coup près du concours, et donc, il faut donner de la connaissance. Ouais,
ouais c'est ça. Ouais. T'as quand même cet impératif-là qui bouge pas, mais. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de la prépa, de dire que c'est un système un peu atypique. Dans les faits, si tu prends un tout petit peu de recul dans tous les pays, ça ne s'appelle pas prépa, mais...
Ce sont des questions de journalistes permanentes. Et puis avec cette idée que quelque chose qui serait, même à supposer que ce soit atypique, que ce qui est atypique doit disparaître. C'est toujours bizarre. C'est le seul système dans le monde. Mais alors, est-ce qu'il va subsister? Enfin, on a envie de dire, mais je ne sais pas. Pendant très longtemps, la démocratie a été atypique dans le monde. Est-ce qu'elle doit disparaître? Enfin, c'est un drôle de raisonnement. Et là-dessus, en France, on est... C'est pas du tout comme ça en Allemagne. C'est pour ça que je te dis ça. On est toujours dans des drôles de raisonnements. Quand quelque chose change, ça disparaît. Si quelque chose est atypique, ça devrait disparaître. Mais enfin... L'atypisme, c'est l'essence même de la vie. Enfin,
oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, t'as même pas besoin de le préciser quand on dit, on est les seuls à faire ça. C'est
sous-entendu. Ça va disparaître. Quelle drôle d'idée. La France a longtemps été une des rares républiques démocratiques en Europe, entourée de régimes autoritaires. Tu vois, non. Ce sont des drôles de raisonnements, comme le raisonnement sur le comparatif du prix de la classe prépa. Il suffit de diviser par le nombre d'heures et par l'efficience, et en fait, c'est pas cher.
J'avais deux dernières questions à te poser pour terminer.
Je t'en prie.
Déjà, sur la défense de la prépa, parce que du coup, t'es sans doute le prof aujourd'hui le plus actif sur ces sujets, qui est beaucoup
On est plusieurs quand même. On intervient à la PHEC, par exemple, l'association des professeurs de prépa, en prépa UC, on intervient sur beaucoup de salons. Alors, c'est vrai qu'à Paris, il y a plus de salons qu'en province.
Plus de boulot.
Par.
Et tu fais aussi par définition. Tu fais aussi beaucoup de vidéos chez Major Prépa, chez Totis, pour parler aux lycéens, pour parler aux étudiants de prépa. Qu'est-ce qui te motive là-dedans? Pourquoi tu te...
Ah, c'est simple.
J'allais leur donner du mal, mais c'est peut-être pas
c'est
si mal.
C'est simple. Tu oublies de préciser, comme ça va sans dire, que tout ça est fait gratuitement. Et pourquoi alors? Mais parce que j'ai un immense sentiment de redevabilité. On va finir par ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire ma prépa il y a 30 ans. J'ai un immense sentiment de redevabilité à l'égard de mes profs, à l'égard de la structure classe prépa. Sans ça, ça m'a donné une colonne vertébrale, et moi je défends ce système parce que je le pense vertueux, je pense qu'il produit des individus larges d'esprit, j'espère en tout cas. En tout cas, c'est un acte de foi. Hein.
Ouais, c'est ton sentiment.
Un acte de foi. Un acte de foi. C'est un pari que l'on fait. Parce qu'on ne peut pas savoir. Peut-être que dans les élèves que j'ai, l'un ou l'une va devenir trafiquant d'armes un jour. Je ne sais pas.
Ouais, bien sûr.
Bon, ou va mal tourner. C'est possible. Hein. Et d'ailleurs, dans tous ceux que j'ai dû avoir avec le temps, c'est très possible. Mais il y a le pari que ce type de formation va pouvoir équiper des jeunes et leur faire affronter. Tu sais, si je fondais un jour une école. Je crois que je mettrai au fronton la devise. Alors, comme on n'a pas préparé cette émission, je cite de mémoire hein, de Paul Valéry. Hein, il s'agit de faire de vous des hommes, il dit, qui pourront affronter ce qui n'a jamais été. Voilà. Et donc, quand on connaît le passé, quand on a une vaste culture, on est plus apte, à affronter ce qui n'a jamais été, car le passé ne se reproduira pas. Le nouveau est, par définition, l'avenir. Ce n'est pas la continuité du présent, c'est ce qui diffère du présent. Et je crois que la prépa fait partie de ces formations humanistiques et larges qui permettent d'affronter ce qui n'a jamais été, d'être non pas un sujet, mais un acteur. Et comme j'y crois, eh bien, je défends le système.
Une toute dernière question pour conclure cet épisode. Je pose toujours la même question.
Ma couleur favorite est le bleu. Non, c'est raté. Pas ça.
Non, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir?
Je sais pas, de ne pas m'ennuyer en classe, de ne pas être blasé, tout simplement.
Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes tes réponses.
Merci, Dimitri.